Thank you very much.
Merci beaucoup, Monsieur Charef. En tant que co-rapporteur, je vais à mon tour faire des commentaires et poser des questions. Parmi les réponses que vous nous avez données aujourd'hui, en fait, avec les réponses que vous nous avez données, j'aimerais saluer l'ouverture dont vous faites preuve. Vous nous avez dit quelles étaient les recommandations dont vous auriez besoin, et c'est vraiment quelque chose de très positif pour notre dialogue constructif. Alors, parmi les réponses que vous avez données, il y en a deux qui me poussent à réagir. La directrice générale des migrations a dit qu'il y avait des plaintes qui étaient recueillies par téléphone, des plaintes relatives à la traite de personnes. C'est une question qui est loin d'être mineure. Si vous recevez un appel téléphonique d'une personne qui est victime de la traite, cet appel mérite toute l'attention qui s'impose. La personne qui décroche le téléphone doit être à même d'aider cette victime de la traite. La victime se trouve dans une situation extraordinaire et cet appel téléphonique peut ne pas aider cette personne. Est-ce que vous avez un personnel spécialisé en charge de cette ligne téléphonique? Tous les fonctionnaires publics ne peuvent pas nécessairement apporter l'aide nécessaire en réaction à un appel à l'aide téléphonique. S'agissant toujours de la traite des personnes, pourriez-vous nous rappeler si vous avez des programmes, des législations pénales particulières pour la répression de la traite? Il y a le protocole de Palerme au niveau international, mais au niveau national, je ne sais pas si vous en avez parlé. Est-ce qu'il y a une législation pénale qui correspond à ce protocole de Palerme afin de réprimer ce délit? Je crois que vous avez parlé d'un plan d'action à un moment donné. J'aimerais savoir surtout quels sont les résultats, quelles sont les conséquences de ces plans d'action. C'est très bien d'avoir un plan d'action, c'est encore mieux d'avoir des résultats, de pouvoir analyser ces résultats afin d'avoir une bonne politique de lutte contre la traite. Vous avez parlé également des demandes de refuge qui permet de chercher un travail sans aucune restriction. Vous avez dit qu'il fallait s'inscrire pour obtenir le livret, le document visant à payer des impôts. Une personne qui demande de refuge, qui est dans une situation de vie extrêmement difficile. Donc on lui demande, on exige de lui qu'il s'inscrive pour payer des impôts, ou alors est-ce que c'est simplement un registre unique qui permet d'enregistrer les personnes? Parce que imaginez-vous, si je dois m'inscrire au registre des contribuables parce que je demande refuge, j'aurais bien du mal à croire que on ait accès à un tel registre. Mais j'aimerais savoir ce qu'il en est. Si c'est un registre d'ordre général, c'est mieux parce que c'est un registre qui permet d'avoir accès aux services publics. Mais un registre pour les contribuables, parce qu'on a l'impression que si l'on met le doigt ce type de registre, on a l'impression qu'on n'en sortira pas, qu'il faudra toujours payer des impôts. Il y a un autre phénomène régional, mondial, la traite des personnes. La traite des personnes fait l'objet d'une législation au Paraguay. Est-ce qu'il y a une sanction qui est prévue dans le droit pénal? Une peine pour des personnes qui se rendent coupables de la traite? C'est une activité qui génère énormément de ressources au niveau mondial. Il est très difficile de lutter contre la traite. Alors pourriez-vous nous dire quelle est la politique mise en œuvre pour éviter la traite des personnes? Nous savons que c'est l'une des sources de préoccupations majeures. Il y a un grand nombre de personnes victimes de cette traite. Et elles entraînent une grande vulnérabilité pour les personnes qui cherchent un avenir meilleur ailleurs. Voilà pour mes questions. J'ouvre à présent le débat. Je donne la parole aux membres du comité, Monsieur Fracheri et puis Monsieur Pablo Seriani. Monsieur Fracheri, vous avez la parole.